à voix nue. Cette semaine, enregistrée en 1996, la rencontre entre Jean d'Ormesson et Jean Daniel, récemment disparu. Ce soir, souvenir de conversation avec François Mitterrand.
Une grande partie de l'intérêt que moi-même j'ai eu dans le rapport très compliqué que j'ai eu avec François Mitterrand venait de la richesse et du charme de sa conversation. C'est vrai qu'il m'a toujours considéré comme quelqu'un dont il regrettait que je m'occupe de politique. C'était assez embêtant quand je ne m'occupais que de ça dans mes éditoriaux. Mais enfin, il affectait, puisqu'il croyait trouver matière à dénigrement dans le journal, il affectait de me séparer de ce que je faisais, tout en me disant quelquefois, ou bien vous êtes le directeur de ce journal, et qu'est-ce que vous faites près de moi, ou bien vous ne l'êtes pas, et pourquoi vous n'en partez pas. Mais c'est vrai que l'Observateur lui déplaisait à ce point qu'un jour il a décidé de commanditer un autre journal contre l'Observateur, qui était Globe, qui n'avait de raison d'être que pour ça. Mais alors j'ai eu, au fond, il m'a proposé plusieurs fois un poste, en particulier d'ambassadeur. Les trois fois, j'ai refusé. Et je ne lui dois rien, sauf une chose. C'est qu'il m'a sept fois invité dans des voyages officiels. Et les sept fois, au moment du repas, il m'a convié à déjeuner dans la cabine de l'avant qui lui était réservée. Et les sept fois, j'ai eu ce privilège de conversation qui était rarement consacré à la politique.
Ah, bien sûr, j'ai eu exactement la même expérience.
C'est plus explicable pour toi qui l'identifie comme un grand écrivain, un universitaire, et au fond, pour vous donner l'impression d'assumer votre égarement dans la politique.
Oui.
Donc, il n'avait rien à vous apprendre. Tandis que moi, il prétendait.
Oui. Je me suis même demandé si. On va pas fêter Noël là-dessus. Le dernier petit déjeuner à l'Élysée qu'il m'a invité à partager avec lui.
Qui était très important. Parce que c'est le dernier.
C'était le dernier.
Oui.
Et je me suis demandé s'il ne s'était pas dit, puisque mes amis me lâchent, je vais voir ce que donnent mes adversaires. D'ailleurs, il me l'a presque dit.
C'est vrai.
Il me l'a presque dit. Je crois que il avait été quand même un peu blessé à la fin de sa vie.
Par les réactions sur l'affaire Bousquet en particulier.
Pas les réactions sur l'affaire Bousquet.
Oui,
il
m'en a parlé. Le mot de Daniel Meyer, si j'avais su ça, je n'aurais pas voté pour lui. Lui qui a été président du Conseil constitutionnel, c'est vrai. Mais en même temps, vous voyez. Marguerite Duras a eu un mot sur lui. On a beaucoup ricadé sur l'attachement, la dévotion de Marguerite Duras à l'égard de François Mitterrand. Elle a eu un mot que je crois juste. Elle a dit, si je l'aime, c'est parce que c'est un des rares hommes libres que je connaisse. Et je crois qu'elle avait raison, c'est dans la mesure où cette liberté, il l'a eu avant le pouvoir, mais elle était remplie. Camouflé, occulté par la stratégie, par les petites tactiques, par la petite cuisine, une fois au pouvoir, ce caprice de liberté, il en jouit à la manière de Mazarin. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de comportements que j'ai comparés avec ceux de Mazarin à certains moments.
Oui.
Y compris dans la conception de la vérité.
Sûrement.
C'est-à-dire, la vérité, elle est à partir du moment où j'ai le pouvoir, celle que je crée. Il y a les choses dont je dois persuader les autres sans me préoccuper d'une référence qui nous serait supérieure aux autres et à moi. Je suis la source du droit. Au fond, c'est la théorie de Kantorowicz avec le roi. Il est tout à fait dans une tradition royale où on est la source du droit. Donc il n'y a pas de vérité supérieure, puisqu'elle émane de vous. Il a cette liberté.
Et en même temps.
Donc quand il vous invite, moi j'ai l'impression que c'est un. Si je ne veux pas froisser votre modestie, qui ne doit pas être grande d'ailleurs, mais enfin.
Je crains personne.
Non. Eh bien, Eh bien, je crois que c'est un signe très amical.
Oui, et c'est pour ça que
c'est un signe très amical.
Que je n'ai pas voulu trahir tout ce qu'il m'a dit et qui était évidemment stupéfiant. Ouais. Mais ce dont nous avons parlé aussi, et je crois que tous ceux qui l'ont approché diront la même chose, c'était le retour sur sa formation, sur sa mère, sur son arrivée comme jeune homme à Paris, avec ce côté extraordinaire, avec la visite à Mauriac, c'est pas la visite à François Mauriac, avec le fameux passage au 104 de la rue de Vaugirard. Peut-être faut-il expliquer que le 104 de la rue Vaugirard était un centre catholique.
Des maristes.
Des maristes, et qui a joué un grand rôle dans l'histoire intellectuelle française. Et puis, cette préoccupation sur l'au-delà, sur la mort, sur le sacré. Évidemment, ça le préoccupait beaucoup.
Ça le préoccupait énormément. Alors, moi, je vais vous dire comment nous passions à certains moments de la politique au domaine que vous venez d'évoquer. À un moment donné, il a cru, comme vous le savez, qu'il y avait contre lui ce qu'il appelait un complot chrétien. C'était une idée assez curieuse, parce que dans ce complot, il met les mains d'Asfrance qui n'était pas du tout chrétien. Rocard, oui, qui était d'un protestantisme incertain, et de mon maire, davantage. Et puis, des gens comme moi, et puis il me disait chaque fois, mais qu'est-ce que vous faites dans ce milieu? Il m'interrogeait sur mes appartenances et sur ce qu'il trouvait suspect, à savoir les intégrations indulgentes que j'avais l'air, dans certains écrits, d'exprimer à l'égard du catholicisme et même de l'Église telle qu'elle s'était tout de même réformée depuis Vatican II. Au point qu'un jour, toujours dans ses voyages d'avion, il a eu cette attention, les autres ne peuvent pas comprendre, un chef d'État qui a une attention de ce genre ne peut pas être insensible, il a apporté une photocopie qu'il a fait faire par je ne sais quel conservateur de bibliothèque d'une partie de l'authentique syllabus pour me montrer à quel point l'Église pouvait s'affirmer comme réactionnaire, comme hostile à la France de la Révolution, comme démentant tous les espoirs de populaires, comme s'opposant surtout au progrès, puisque le syllabus, c'était, vous vous souvenez, contre les erreurs de notre temps, etc. C'était une réponse aussi, parce que je lui avais apporté une chose qu'il ne connaissait pas, il aimait Tolstoï, mais il ne connaissait pas deux petits livres qui sont, comme vous savez, des chefs-d'œuvre, c'est La mort de Ivan Illich et Maître et serviteur. Et là, il me dit un jour, en me regardant d'un air un peu las, un peu fatigué, un peu presque à la limite du mépris, comment peut-on, quand on a eu cette chance de naître juif, avoir cette curiosité, cet intérêt tout se passait comme si, et je le lui ai dit, le fait d'être né juif ne pouvait avoir que deux conséquences, ou être un militant athée, déchaîné de la laïcité militante et quasiment anticléricale et haineuse, ou bien alors recherchant dans les arcanes bibliques et de la Torah le secret de la vie. J'étais emprisonné dans cette dialectique et je n'avais pas le droit d'aller ailleurs à ses yeux. Mais c'est vrai qu'il ne me laissait pas libre. Alors j'ai eu à m'en expliquer, d'où, vous voyez, le départ pour un certain nombre de thèmes sur la personne de Jésus. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il a écrit pour une toute petite revue confidentielle et catholique un texte admirable sur Jésus, parce qu'il est un texte politique. Et il l'admire. Il y a le mot « recette » quelquefois, vous comprenez, cette recette du catholicisme extraordinaire, avoir inventé l'incarnation contre le mal. Et puis ensuite, en réponse, au lieu de proposer une punition, proposer l'amour, C'est génial, c'est formidable.
Alors, et alors, je dois vous dire, ça m'amuse, parce que dans ce fameux, entre guillemets, évidemment, ce fameux petit déjeuner, après avoir évoqué des personnes, des souvenirs, nous avons parlé de deux thèmes. L'un était l'incarnation, qui est évidemment un thème prodigieux, n'est-ce pas,
parce que
un thème de génie, si on peut dire, de Dieu qui est hors du temps, on ne peut rien dire. Et le coup de génie, c'est de le faire entrer dans le temps pour qu'on puisse enfin en parler.
Pour souffrir. Entrer dans le temps de manière qu'on ne peut pas discuter.
Naturellement, c'est en France.
Alors, il pensait qu'il devait y avoir un père de l'Église digne de son propre génie à lui, Mitterrand, pour inventer une chose aussi incroyable.
D'ailleurs, il y en a eu pas mal. Et le deuxième thème, c'était la communion des saints.
Ah oui, alors là, j'étais moins ferré que vous.
Il aimait beaucoup la communion des saints, et évidemment, c'était un thème qui le travaillait beaucoup.
Il vous en a parlé.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'il y trouvait?
Il m'en a parlé. Ah, il était très... Si j'ose dire, il était très pour. Il trouvait que cette espèce de réversion des mérites, cette espèce de chaîne qui se fait des uns aux autres et qui fait que quelqu'un peut prier à des milliers de kilomètres pour quelqu'un d'autre et que ça a un effet, il ne ricanait pas du tout, loin de là.
Mais alors, quand il vous parlait, est-ce qu'il vous a paru comme à moi habité par ces problèmes?
Oui, certainement.
C'était pas un luxe,
Enfin, ou alors il était d'une habileté telle que...
Vous savez qu'on l'en accuse même de ça.
Oui, bien sûr, on peut l'accuser même de ça. Oui. Moi, il m'a paru tout à fait sincère et passionné par le sujet, et traitant alors les problèmes politiques, peut-être parce que c'était en effet que j'étais en face de lui, mais les balayant de la main, n'est-ce pas, les balayant de la main.
Oui, alors, sur les problèmes politiques, il y avait aussi des jugements. Il ne balayait pas de la main une chose, quand il s'agissait
de conquérir le pouvoir.
Oui, non, de juger les intellectuels. Oui. Et là, il disait, ne serait-ce que par patriotisme, je ne comprends pas qu'un intellectuel ne connaisse pas la France. Il se flattait, à juste titre, de connaître ce pays d'une manière... au fond, je crois qu'il pensait qu'il n'y avait que Maurice Faure, curieusement, que moi je connais très mal, mais dont on me dit que c'est justifié qu'il le connaissait aussi bien, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut aller depuis Paris, dans n'importe quel village de France, et rappeler aux élus quels étaient leurs prédécesseurs et quel a été le fait divers le plus important dans la commune de telle partie... Et là-dessus, il se flattait de ça. C'était la seule, au fond, dimension assez lyrique qu'il donnait à la vie politique. Mais tout de suite après, évidemment, pour reprendre notre sujet, il y avait cette idée, au fond, de la coexistence du mal, non pas du mal, c'était mon problème, je ne voudrais pas projeter, mais c'est de la mort. Comment on pouvait concilier, au fond, la mort? Il trouvait que l'incarnation, évidemment... Alors, il me disait, mais qu'est-ce qui vous retient dans ce cas-là? Puisqu'il me faisait parler, qu'est-ce qui vous retient hors des religions? Et je lui avais dit, et je le dis parce que nous venons de publier tous les deux un livre sur ce genre de sujet, ce que je dis dans mon livre, ce qui me retient hors des religions, chez les juifs, c'est l'élection que je n'accepte pas. Et chez les catholiques, dans le christianisme, c'est la résurrection.
De Mitterrand, on peut peut-être dire que c'était une sorte de mystique laïque et égocentrique qui connaissait parfaitement la carte politique de la France.
Oui, c'est très bien résumé. Sur la mort, est-ce que vous avez eu... il a fait un numéro devant vous ou bien...
Pas vraiment, non. Ce qu'il m'a dit, c'est... Je lui ai demandé la question la plus banale. Je lui ai demandé s'il souffrait. Et il m'a dit qu'il avait souffert atrocement quelques mois auparavant, et là il m'avait paru tout à fait serein, pas du tout amer, assez détaché, très préoccupé par la mort, et surtout par ce qu'il y avait après. Et alors évidemment il y a de nouveau, alors on se pose de nouveau des questions, il y a ce testament ou ces dernières volontés, dont on a quand même très peu parlé, où il parlait d'une messe comme d'une possibilité.
Oui, oui, enfin,
c'était quand même formidable.
L'éventualité, oui, l'éventualité d'une messe, oui, en effet. Oui,
sur
oui,
laquelle on oui, peut dire oui, que sur cette éventualité, l'Église catholique s'est d'ailleurs jetée
absolument,
avec
oui,
avidité,
oui,
n'est-ce pas ? Dans le couple étonnant formé par Mitterrand et l'Église catholique après le décès du président, il me semble que les responsabilités sont au moins partagées entre l'Église catholique et le président. Je veux dire...
Elles ont été diversement appréciées, comme vous savez.
Oui, 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 en effet, et je oui, comprends
voilà,
qu'elle l'ait
absolument,
été.
Oui.
Et je comprends qu'elle l'ait été, et je me demande quelle aurait été l'attitude d'un curé de campagne en face d'un modeste citoyen qui aurait présenté les mêmes caractéristiques familiales que Mitterrand. Et ce n'est pas tellement la faute de Mitterrand que de la hiérarchie catholique.
Absolument. Cela dit, sur les sentiments de Mitterrand, je les ai connus provinciaux, c'est-à-dire contre le château et l'Église, dans la mesure où l'Église était le symbole d'une puissance hiérarchique. C'est le même jeune homme qui allait chez les maristes, mais qui se disait, quand même, ces gens du sommet ne sont pas mon univers. Parce qu'ils sont au sommet. Pas parce qu'ils pensent ce qu'ils pensent, mais simplement par le fait qu'ils sont au sommet. Sur l'interprétation de l'Église catholique, si on veut être absolument indulgent, ce que me reprocherait Mitterrand, on pourrait dire que Mitterrand pensait un petit peu ce que Camus pensait, qu'il me disait quand je le voyais en compagnie du père Bruckberger, et il me disait, il faut que toujours que j'ai un religieux autour de moi, on ne sait jamais. et alors, on peut penser que c'est un peu ça, l'éventualité d'une messe, c'est ça que ça exprime. Il avait, alors, il faut le dire... Et il se plaignait de ne pas pouvoir communiquer assez bien, puisque à l'époque, j'avais aucune espèce de culture. Il avait une vraie connaissance de certains prophètes juifs, dont il savait parler avec une émotion poétique.
Absolument.
Et une connaissance que je lui enviais, bien entendu.
Alors, vous savez, le personnage auquel on peut le comparer, ce n'est pas de Gaulle à cet égard, c'est Malraux. J'ai connu Malraux tard, mais je l'ai connu un peu à la fin de sa vie. Et Malraux, à la fin de sa vie, tout le monde le sait, ne parlait plus que de l'évangile de Saint Jean, de l'Apocalypse et des Actes des Apôtres. C'était ce qui l'intéressait. Et il y a un peu la même préoccupation chez Mitterrand et en même temps ce même savoir dont on se demande d'où il vient. Est-ce qu'ils avaient vraiment lu, et Malraux et Mitterrand, est-ce qu'ils avaient lu l'Apocalypse, Ézéchiel, Isaïe L'Ecclésiaste, naturellement.
Mitterrand a lu Isaïe.
Oui, je pense que oui.
Mitterrand a lu Isaïe. Mais là, il peut toujours y avoir un soupçon, puisque vous êtes bien placé pour savoir qu'Isaïe, c'est le prophète le plus réclamé par le catholicisme. En principe, il est supposé annoncer l'arrivée de la bonne nouvelle. Mais Isaïe, c'est certain. Il l'a probablement même appris chez les maristes, je veux dire. Pour le reste, alors, il parlait de Job comme d'une lecture familière. Et c'est quand même, on peut considérer, moi je le sais depuis pas longtemps, que Job c'est un monument de la littérature universelle.
Bien sûr.
Cette évidence m'échappait il y a quelques années encore.
Mais Mitterrand connaissait Job, mais il connaissait presque toute la littérature. Et évidemment, il parlait de la littérature avec un talent et une profondeur qui ne pouvait pas être feinte.
Il avait ébloui tout le monde avec Lamartine chez Pivot.
Il aimait beaucoup Lamartine et il aimait beaucoup une certaine forme de littérature de droite.
Oui, oui.
Il aimait évidemment, je crois, beaucoup Barrès, Chardonne.
Chardonne.
Il aimait beaucoup Chardonne.
Oui. Est-ce que vous pensez que c'était un homme du passé, Mitterrand?
Ça, c'est une question intéressante. C'était un homme extraordinairement attaché au passé. Et évidemment, son domaine, c'était l'avenir. Et finalement, je me demande s'il n'était pas plus englué dans le passé qu'un De Gaulle, par exemple. De Gaulle était un homme du passé, mais qui avait évidemment une projection sur l'avenir prodigieuse. Et on pourrait dire que Mitterrand, dans le champ de travail était l'avenir, était finalement très 19e siècle.
Vous savez, je vous ai posé la question aussi pour pouvoir citer ceci. Un hebdomadaire qui s'appelle Quarterly Review de Los Angeles a publié le verbatim des discussions qui ont eu lieu le 8 octobre 1995. C'est le dernier grand voyage de François Mitterrand dans le Colorado. Vous vous souvenez peut-être que, contre l'avis de ses médecins, il a entrepris ce voyage. Il était extrêmement affaibli. Entre deux cures, il a entrepris ce voyage où il devait rejoindre George Bush, Gorbatchev, Madame Thatcher, je ne sais plus qui encore, enfin bref, tous les grands de ce monde. Et ils ont discuté de l'Allemagne et de ce qu'ils avaient fait, les uns et les autres, ce qu'ils avaient pensé quand il y avait eu une menace, une proximité de l'unification des deux Allemagnes. Alors on s'aperçoit que là, François Mitterrand est un homme du passé. Mais, et c'est cette correction qui me paraît intéressante, Margaret Thatcher, bien plus. Helmut Kohl, qui n'est pas présent, mais qui intervient par les citations qu'on fait de lui, et que surtout que Gorbatchev fait de lui, aussi enchaîné dans le passé, et se crispant pour le conserver. Et un peu tous les gens qui sont présents, George Bush est le seul qui disait « Je vous avoue, il faut que je vous confesse l'égoïsme américain à ce moment-là. Nous étions tellement préoccupés, nous, de faire chuter l'Union soviétique, qui était prête à le faire avec Gorbatchev à s'affaiblissant, que cette unification ne nous posait pas de problème. Mais que si j'avais été en Europe, j'aurais été comme vous. » On s'aperçoit que tous ces gens, aucun d'entre eux n'était le visionnaire les visions dont on les dote maintenant, mais c'est eux qui parlent, et ils en parlent il y a 3 mois. Et tous se mettent d'accord pour dire « Nous avons été effrayés » parce que nous connaissions, parce que, je dirais, les conséquences d'une précipitation de la chute de l'Union soviétique, nous paraissions, sans que nous osions le dire à nos peuples, plus grave que le maintien, encore pour un certain temps, du joug soviétique. Et ils se sont dit, ces 4 chefs d'État. C'est pour ça que je me demande si dans cette fin du XXe siècle, avec l'écroulement de tous les empires, nous n'avons pas connu une période de vertige si important, si inédit, qui a si peu de précédents, qu'elle a condamné tout le monde à être dans le passé.
Oui, peut-être. En effet, tout le monde est rejeté dans le passé. Cette période de vertige, je dois dire qu'elle ne m'a jamais fait aussi peur qu'aux autres.
Vous n'étiez pas chef d'État.
Il me semble que, bien sûr, ça a des inconvénients. Les choses sont moins claires, les choses sont moins solides. Les uns et les autres s'appuyaient comme des presse-livres les uns sur les autres. Et tout le monde répète qu'on a perdu nos marques, que nous avons perdu nos valeurs, que nous avons perdu nos références, je veux bien le croire. Mais en même temps, il y a eu un grand coup de jeune. Et c'est ce coup de jeune qui a rejeté tous les autres, en effet, dans le passé. Et ce grand coup de jeune fait que, tout à coup, toutes les catégories auxquelles nous étions habitués se sont en effet un peu effacées. Et il me semble que c'est un événement très important et finalement très positif.
Mais positif dans quel sens ?
On n'est plus crispé comme on était en disant « Mon Dieu, cet adversaire, il faut que je l'abatte. » L'idée d'abattre l'adversaire, me semble-t-il, est devenue un peu comique et un peu ringarde.
Oui, alors elle est comique dans une partie du monde dans laquelle nous vivons.
Naturellement, elle est comique dans la partie du monde où s'élevait le mur de Berlin. Je crains très fort que ce ne soit pas le cas entre le Nord et le Sud, en effet, où il n'y a plus rien de comique.
Surtout depuis que le Sud est chez nous aussi.
Oui, bien sûr.
Alors je pense que vous avez raison sur le fait, j'irai plus loin, que cette volonté d'abattre l'autre était souvent un alibi pour ne pas traiter des problèmes essentiels communs à toute la planète et que c'est une sorte de libération, de jeunesse et dans la lucidité, si du moins le monde s'acheminait vers ce fameux village planétaire dont on rebat les oreilles toutes. Ce que donnait comme équilibre, comme confort intellectuel, comme sens, bien que vous vous gaussiez un petit peu du mot perdre du sens. Ce que procurait l'équilibre des deux mondes, c'était tout de même une grande intégration de chaque citoyen dans le monde auquel il appartenait. Je me suis aperçu de ça, moi, quand j'ai fait un livre avec un ancien soviétique devenu libéral et qui me parlait de la mort de Staline. Et j'étais incroyablement stupéfait de savoir comment, dans sa famille, on avait pris le deuil de l'oppresseur, du tyran, croire que peut-être si Hitler avait vaincu, ce serait passé de la même manière. Et tout ça pour dire que c'est vrai qu'il y a une certaine sentiment de sécurité qui a été perdu. Et si on pense, alors, pour se plonger dans les conversations du type mitterrandien de la fin, si on se dit qu'au fond, ce qu'on poursuit à travers toutes les recherches, c'est le sentiment de continuité, puisque c'est la seule façon que nous avons de garder l'illusion d'immortalité, c'est la continuité, soit par la famille, soit par la nation, soit par la religion, soit par la puissance. C'est ce sentiment de continuité qui est perdu, ça libère, ça rend disponible une jeunesse pour une vision d'avenir, mais pour le moment, ça la rend orpheline en même temps.
Pour partir un peu loin de Mitterrand, je suis persuadé que la grande tâche, peut-être pas des 100 ans à venir, mais sûrement du prochain millénaire, sera très loin de cette planète. Ce sera d'aller s'occuper
de Mars.
Mais non, je suis absolument persuadé, et je crois que les savants seraient d'accord avec moi, en tout cas Copin l'est, d'aller s'occuper de peupler ce qui est peuplable dans l'univers. Je ne crois pas du tout à une vie ailleurs dans l'univers, mais que les hommes se répandent dans notre système solaire et dans notre galaxie, et peut-être plus tard, plus loin, ça j'en suis absolument persuadé. Et je pense que ça donnera une dimension tout à fait autre au problème dans le millénaire qui vient.
Je crois que la science est ivre, mais que la conscience reste orpheline.
De cette rencontre enregistrée en 1996 entre Jean d'Ormesson et Jean Daniel récemment disparu. À voix nue, réalisation Nicole Salerne, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.